d'indépassable rareté. Jusqu'à présent, l'ordre marchand a toujours réussi à faire surgir à temps de quoi remplacer les matières premières devenues rares, parfois au prix d'opérations militaires et d'un déplacement du cœur. C'est ainsi qu'ont pu être surmontées successivement la disparition de terres cultivables en Flandre, celle du charbon de bois en Angleterre, de l'huile de baleine dans l'Atlantique, du charbon de terre dans toute l'Europe. L'envahissement des villes par les excréments des chevaux que tout le monde craignait pour la fin du XIXe siècle ne s'est jamais matérialisé. Depuis un siècle, l'environnement s'est même considérablement amélioré dans les pays du cœur et du milieu. L'air londonien, irrespirable au XIXe siècle, est beaucoup plus pur aujourd'hui, comme celui de tous les autres grands centres industriels des pays riches. De même, la pénurie d'énergie, régulièrement annoncée depuis plus d'un siècle, s'éloigne de jour en jour. Pourtant, depuis le début du XVIIIe siècle, la consommation de ressources naturelles a été multipliée par 30. Durant les seules 40 dernières années, la consommation des ressources minérales a triplé. Et depuis qu'on utilise le pétrole, 900 milliards de barils ont été brûlés. Avant 2035, le quasi-doublement de la population urbaine s'accompagnera d'un doublement de la demande de matières premières. S'il est certain qu'un jour, chacune deviendra rare, elles seront encore toutes disponibles à la fin du XXIe siècle. Et les plus précieuses, l'argent et l'or, seront encore disponibles pour au moins 2 siècles. Par ailleurs, on commence à recycler massivement les déchets industriels et à récupérer ainsi une part importante des matières premières. 40% de l'aluminium, 38% du cuivre, 47% du plomb et 22% des plastiques domestiques. Enfin, quand la rareté sera vraiment là, on ira chercher du fer, du titane, d'autres matériaux dans les océans et sur la Lune. Pour l'énergie, les données sont en revanche plus préoccupantes. Au rythme actuel de croissance de la consommation, les réserves ne sont plus que de 230 ans pour le charbon, 70 ans pour le gaz, 50 ans pour le pétrole. En matière de pétrole, il pourrait y avoir encore quelques réserves massives mal connues en Irak. Pourrait s'y trouver dans le désert de l'Ouest l'équivalent de 10 ans de consommation mondiale. En Russie, où les réserves dépassent déjà la moitié des réserves mondiales hors OPEP et États-Unis, au Brésil et en Afrique. Il existe aussi d'importantes réserves sous les océans. Il faut y ajouter le pétrole lourd et les schistes bitumineux au Canada, en Alaska, au Venezuela. Les seuls schistes canadiens représenteraient autant de quantités d'énergie que tout le pétrole d'Arabie Saoudite. Même si leur extraction, écologiquement désastreuse, nécessiterait de dépenser, sous forme de charbon, des quantités d'énergie supérieures à celles qui seraient produites sous forme de pétrole. Le gaz, lui, semble plus durablement abondant, même s'il va nécessiter de lourds investissements de transport assortis de risques géopolitiques majeurs. De plus, dans 20 ans, il sera possible de convertir économiquement le charbon en gaz et le gaz en produits pétroliers, ce qui doublera encore la quantité de pétrole disponible. Pour un siècle encore, la disponibilité du pétrole ne sera donc qu'une question de prix. Le passage à d'autres énergies sera donc progressivement nécessaire. Là où la gestion des déchets radioactifs sera politiquement acceptée, l'énergie nucléaire sera de plus en plus utilisée. Des progrès seront faits en matière de sûreté, d'acceptabilité, de compétitivité. Dans 30 ans, cette énergie représentera 15% de l'énergie primaire du monde. L'énergie solaire, ainsi que l'énergie éolienne, ne seront des sources inépuisables que quand elles deviendront stockables. La biomasse sera difficile à développer à grande échelle, sauf ce qui est très important, pour alimenter les voitures particulières. Les autres sources d'énergie naturelle, géothermie, houle, marée, semblent incapables de répondre à une demande significative. Enfin, la fusion thermonucléaire, qui pourrait à elle seule représenter une source quasi illimitée, ne sera sûrement pas praticable avant au moins la fin du XXIe siècle. Au total, l'énergie sera de plus en plus coûteuse, ce qui incitera à l'économiser en remplaçant les mouvements physiques par des échanges immatériels. Bien avant que le manque d'énergie se fasse sentir, d'autres raretés devront être surmontées, en particulier celles des produits agricoles et des forêts. Alors qu'il faudra, avant 2050, doubler la production agricole pour nourrir la population de la planète, 1 milliard de tonnes de céréales de plus par an, soit 50% de plus qu'en 2006, 5 millions d'hectares cultivables disparaissent chaque année sous la pression de l'urbanisation. De plus, l'humanité a déjà consommé la moitié de la capacité des plantes à photosynthétiser la lumière solaire. Une production agricole suffisante supposera donc l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dont rien ne garantit encore l'innocuité. Et le temps presse, les stocks baissent. Les forêts se feront de plus en plus rares, dévorées par les industries de l'armement naval, puis par celles du papier, puis par l'expansion de l'agriculture et des villes. Depuis le XVIIIe siècle, une partie du monde équivalent à la superficie de l'Europe a été dépouillée de ses forêts. Dans les 10 dernières années du XXe siècle, la moitié des réserves forestières de l'ouest de l'Allemagne a disparu. Chaque heure, c'est l'équivalent de 7 terrains de football qui est déboisé. Le Japon, premier importateur mondial de bois tropical, est responsable d'un tiers de ces dégâts. De plus, les gaz industriels, oxyde de soufre et d'azote, détruisent les arbres d'un bout à l'autre du globe, en particulier les fragiles forêts ombrophiles de la périphérie. Enfin, le développement de l'économie de l'immatériel ne réduira pas avant longtemps la demande de papier d'impression. Au rythme actuel, dans 40 ans, il n'y aura plus de forêts sauf là où elles seront entretenues, c'est-à-dire pour l'instant seulement en Europe et en Amérique du Nord. Cette disparition sera mortelle pour d'innombrables espèces vivantes et mettra en danger la survie de l'humanité. Les émissions gazeuses rejetées dans l'atmosphère par la production industrielle constituent une autre menace. Si la production des chlorofluorocarbones, qui réduisent l'épaisseur de la couche d'ozone entourant l'atmosphère, semble aujourd'hui sous contrôle, 23 milliards de tonnes de carbone, produits par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, sont annuellement déversés dans l'air et le réchauffent. Et d'autres émissions de gaz divers y participent. Cela va s'aggraver. La Chine, qui émet encore 5 fois moins de gaz carbonique que les pays riches, va construire sur 30 ans l'équivalent d'une centrale électrique de 1000 MW par mois. Elle enverra ainsi des quantités de plus en plus considérables de polluants dans l'atmosphère. Sauf à imaginer une action massive d'ici à 2030, à cette date, les émissions de gaz carbonique par habitant auront doublé. Le pire danger est là, car le gaz carbonique ainsi émis élèvera sensiblement, selon la plupart des experts, la température de l'atmosphère. Alors qu'au cours des 100 dernières années, la température moyenne à la surface du globe n'a augmenté que d'un demi-degré, les 10 dernières années ont constitué la décennie la plus chaude de l'histoire. Et le phénomène ne fait sans doute que commencer. Les simulations les plus sérieuses prévoient, malgré l'extrême variabilité des climats, que la Terre se réchauffera de 2 degrés avant 2050 et de 5 degrés avant 2100. Les conséquences en sont déjà visibles. Les calottes polaires ont commencé à fondre, au moins au nord. La vitesse de la fonte des glaces a augmenté de 250% de 2004 à 2006. Les glaciers du Groenland, deuxième source d'eau douce du monde, régressent très rapidement. De 1990 à 2006, 3 millions de kilomètres cubes de glace sur les 8 qui existaient au pôle Nord ont disparu. Le niveau des océans augmente de 2 mm par an et aura monté en 2050 d'au moins 12 cm, peut-être même de 50. La dernière fois qu'il a fait aussi chaud, c'était au milieu du Pliocène, il y a 3 millions d'années, lorsque le niveau des océans était à 25 mètres de plus qu'aujourd'hui. Des catastrophes naturelles s'ensuivront, aux conséquences financières gigantesques. Les écarts de température étant de plus en plus marqués, des altérations très importantes se produiront dans la nature. Les arbres pousseront plus vite et seront plus fragiles. Il y aura plus de chênes, moins de hêtres. Les cigales se retrouveront jusqu'en Scandinavie, avec la menthe religieuse et les papillons méditerranéens. Le plancton migrera vers le nord, suivi par les poissons qui s'en nourrissent, faisant disparaître les oiseaux marins dont ils constituaient l'ordinaire. Beaucoup plus grave, nombre de côtes pourraient devenir inhabitables. 7 des 10 plus grandes villes du monde sont en effet des ports, et un tiers de la population mondiale habite sur un littoral. Le désert africain progressera chaque année d'une surface égale à celle de la Belgique. 2 milliards de personnes vivront dans des zones menacées de désertification, dont 700 millions en Afrique. 15 millions ont déjà dû quitter leur village, devenu inhabitable. Selon le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ces éco-exilés seront 10 fois plus nombreux en 2050. Les émissions de gaz carbonique et d'autres gaz polluants ne se réduiront pas aisément. Les pays du Nord auront du mal à modifier leur mode de vie, et ceux du Sud rejetteront longtemps toute restriction, soutenant qu'elle ne ferait que sauvegarder la richesse et le confort du Nord. Le Brésil continuera à brûler la forêt amazonienne aussi longtemps que les pays industrialisés ne réduiront pas de manière substantielle leurs propres émissions de gaz carbonique. Les seuls accords internationaux portant sur ce sujet, signés à Kyoto, en 1999, n'auront pratiquement aucun effet sur ces évolutions. Le changement ne sera sensible que du jour où les pays du Nord percevront l'extrême gravité de ses conséquences et quand les pays du Sud comprendront que les investissements venus du Nord se réduiront comme peau de chagrin s'ils ne font pas l'effort de réduire leur consommation d'énergie. Cela commencera, on le verra au chapitre suivant, par une très forte action du marché, sous la pression des compagnies d'assurance et des opinions publiques. La sécheresse aura une autre conséquence, rendre l'eau potable encore plus rare. Les faits ici sont accablants. La moitié des cours d'eau du monde sont déjà en passe d'être gravement pollués par la production industrielle, agricole et urbaine. L'humanité a déjà consommé 80% de ses ressources d'eau douce naturelle. Il ne reste plus que 8000 mètres cubes d'eau potable par habitant et par an, contre 15000 mètres cubes en 1900. Plus de 1,5 milliard de personnes ont difficilement accès à l'eau potable et 3,5 milliards à une eau saine. Plus de 200 millions de personnes contractent chaque année le choléra après avoir absorbé de l'eau contaminée. L'eau polluée tue 15 000 personnes par jour. Elle entraîne des centaines de maladies, en particulier la malaria. Cette situation, déjà très préoccupante, ne va qu'empirer. En 2025, la moitié de la population mondiale connaîtra un manque d'eau potable, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. D'ici à 2040, la quantité d'eau potable disponible par habitant baissera encore de moitié, passant de 8000 à 4000 mètres cubes par an. Le cas de Gaza est exemplaire. L'eau des puits y est tellement exploitée que la nappe phréatique est remplie par la mer, elle-même polluée par les eaux usées qui y sont déversées, 40% des habitants ne possédant pas de système tout à l'égout. Toute solution à long terme, à Gaza comme ailleurs, passera par un meilleur système de voirie urbaine, par la désalinisation de l'eau de mer et par une meilleure gestion de l'eau douce. En fait, il existerait de l'eau douce en quantité suffisante pour 20 milliards de personnes si l'on pouvait mieux gérer les prélèvements de l'agriculture et de l'industrie, doubler les 70 milliards de dollars consacrés annuellement à la production, à la distribution et à la gestion de l'eau douce, et organiser sur une grande échelle un dessalement de l'eau de mer 35 fois plus abondante que l'eau douce. Cela impliquera, comme pour toutes les autres matières premières, une hausse massive du prix pour le consommateur ou le contribuable. On verra au chapitre suivant comment la première vague de l'avenir développera des technologies adaptées. Enfin, la diversité animale et végétale semble se réduire par le jeu combiné des dégradations de la nature. Environ 10 000 espèces disparaissent chaque année sur les 1 750 000 espèces déjà recensées et les 14 millions qui semblent exister. Un quart des espèces de mammifères est menacé d'extinction. Le dixième des récifs coralliens, sans lesquels aucune vie terrestre n'aurait été possible, est déjà irrémédiablement condamné. Un autre tiers est fortement menacé de disparition d'ici à 30 ans. La raie manta, par exemple, est en voie d'extinction, comme 4 des 7 espèces de tortues marines. La population mondiale des hippocampes a diminué de moitié au cours des 5 dernières années. 80% de certaines espèces de requins ont disparu depuis 10 ans. La morue pourrait disparaître totalement avant la fin du siècle. Le thon rouge se fait rare. Au total, le nombre d'espèces animales pourrait chuter de 90%, comme c'est arrivé déjà à 2 reprises dans l'histoire du globe, d'abord il y a 250 millions d'années, puis il y a 65 millions d'années, quand disparurent les dinosaures et qu'apparurent les mammifères. La disparition de la moitié des espèces vivantes avant la fin du XXIe siècle n'est donc pas à exclure, et il n'est pas certain que l'espèce humaine puisse y survivre. Comme par le passé, des technologies pourraient voir le jour pour surmonter chacune de ces raretés. Elles devraient permettre, entre autres, de réduire les consommations d'énergie, de mieux se débarrasser des déchets, de repenser la ville et les transports. L'essoufflement technologique. Deux progrès technologiques ont assuré jusqu'ici l'expansion de la neuvième forme en permettant l'un l'augmentation continue des capacités de stockage de l'information par des microprocesseurs et l'autre celle de l'énergie par des batteries. Vers 2030, ces deux progrès atteindront leurs limites. La loi de Moore, doublement des capacités des microprocesseurs tous les 18 mois, aura atteint sa limite physique. De même, la capacité limite de stockage des batteries au lithium sera atteinte. En d'autres domaines, les innovations linéaires semblent aussi se ralentir. L'industrie automobile stagne, tout comme celle des équipements ménagers. Le téléphone portable et Internet n'ont presque pas progressé depuis 15 ans. La génétique piétine. Les nouveaux médicaments ne sont pas au rendez-vous. Les progrès agricoles se ralentissent. Les nouvelles énergies se font attendre. Par ailleurs, on voit fleurir beaucoup de faux progrès. Les ordinateurs personnels sont inutilement puissants. Les voitures, trop complexes. Un ordinateur portable d'aujourd'hui est 10 fois plus puissant et 10 fois plus cher que ceux qui pourraient aujourd'hui satisfaire les nécessités du consommateur. Pour répondre aux besoins en énergie, en eau, en matériaux, en produits alimentaires et vestimentaires, en moyens de transport et de communication, pour éliminer les déchets d'une population en très forte croissance, il faudra donc résoudre des problèmes scientifiques, aujourd'hui encore insolubles, puis mettre au point des technologies et des systèmes logistiques industriellement efficaces, financièrement praticables et socialement acceptables. Il faudra en particulier accomplir des progrès majeurs dans la miniaturisation d'un très grand nombre de processus. Non plus en empilant de plus en plus d'énergie et d'informations sur des espaces de plus en plus petits, mais en utilisant l'infiniment petit, vivant ou non, comme une machine. Il faudrait en particulier réussir à modifier les semences agricoles pour les rendre moins consommatrices d'eau, d'engrais et d'énergie, et organiser le stockage de l'hydrogène gazeux dans des nanofibres pour fabriquer, dans des conditions économiques raisonnables, des piles à hydrogène sous haute pression, puis des moteurs hybrides produisant de l'hydrogène en continu par électrolyse. C'est l'ambition des vagues technologiques qui s'annoncent, biotechnologie et nanotechnologie. Mais leur validité, leur praticabilité, leur sécurité et leur acceptabilité politique et sociale ne seront pas acquises avant au moins 2025. De plus, pour obéir aux injonctions des marchés financiers, les laboratoires de recherche des entreprises privées feront de moins en moins circuler leurs résultats et prendront de moins en moins de risques. Plus généralement, les entreprises industrielles seront de moins en moins enclines à prendre des risques et à investir dans l'industrie, préférant les bénéfices de la spéculation financière à ceux plus hasardeux de la technique. Enfin, une rareté semble très durablement insurmontable, celle du temps. La seule vraie rareté, le temps. La production d'objets marchands prendra de moins en moins de temps. On en passera aussi de moins en moins à travailler, à cuisiner, à nettoyer, à manger. Au contraire, les produits mis sur le marché seront, eux, de plus en plus chronophages. Augmentera d'abord le temps de transport, avec la croissance de la taille de la ville. Il deviendra une sorte de temps esclave où l'on pourra continuer à consommer et à travailler. On consacrera d'ailleurs de plus en plus de temps, au cours du transport, à communiquer, à intégrer des informations, à voir des films, à jouer, à assister à des spectacles. De même, il sera possible à beaucoup d'écouter de la musique, ou un livre enregistré, ou un spectacle vivant, tout en travaillant. La musique sera de plus en plus la grande consolatrice devant les chagrins, les deuils, la solitude, la désespérance. Malgré ce temps contraint, beaucoup réaliseront qu'ils n'auront jamais le temps de tout lire, tout entendre, tout voir, tout visiter, tout apprendre. Comme le savoir disponible double déjà tous les 7 ans et doublera tous les 72 jours en 2030, le temps nécessaire pour se tenir informé, apprendre, devenir et rester employable augmentera d'autant. Il en ira de même du temps nécessaire pour se soigner et s'entretenir. Alors que ne changera pas le temps nécessaire pour dormir ou aimer. Pour contourner cet obstacle qui limite la consommation, l'ordre marchand a d'abord incité à stocker les objets chronophages, livres, disques, films, de façon matérielle, puis aujourd'hui de façon virtuelle, empilements illimités, illusoires, sans plus aucune relation avec la possibilité d'en faire usage. Comme si ce stockage servait à donner l'illusion à chacun qu'il ne pourrait pas mourir sans avoir lu tous ses livres, entendu toutes ses mélodies, vécu le temps ainsi stocké. En vain. Les futures œuvres d'art tourneront d'ailleurs de plus en plus autour de ce thème du temps, devenu obsession. On aura compris que le temps est en fait la seule réalité vraiment rare. Nul ne peut en produire. Nul ne peut vendre celui dont il dispose. Personne ne sait l'accumuler. On s'efforcera certes d'en produire un peu en allongeant encore la durée de vie humaine. On pariera sur une durée moyenne de 120 ans, sur une durée de travail de 25 heures par semaine. Pour aller plus loin, il faudrait réussir à renverser des barrières a priori infranchissables en réduisant le temps mis à remplir les fonctions inhérentes à toute vie. Naître, dormir, apprendre, se soigner, aimer, décider. Par exemple, il faudrait pouvoir faire naître un enfant en moins de 9 mois, ou lui apprendre à marcher en moins d'un an, à parler une langue en moins de 3000 heures. D'aucuns découvriront alors que la liberté elle-même, objectif majeur de l'homme depuis les débuts de l'ordre marchand, n'est en fait que l'illusoire manifestation d'un caprice à l'intérieur de la prison du temps. Viendra alors la grande crise de cette forme.